بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de passer au cours selon notre programme habituel, j'aimerais faire un rappel concernant deux points. Le premier point, c'est l'importance de la prise de conscience par rapport à un aspect que nous avons toujours relevé, le problème de l'insouciance. Hier, nous avons tenu une conférence qui a été reportée plusieurs fois. Parfois, à cause de l'absence des participants. Et hier, nous avons tenu cette conférence qui concernait qui portait sur le droit des époux, le droit et devoirs des époux. Nous avons constaté que ceux qui ont assisté à cette conférence étaient peu. Et c'est un problème, surtout quand on parle de ce genre de sujet. Parce que quand on voit comment on vit, c'est ça le problème. Et en ici, à côté de ça, les gens étaient au top niveau. On voyait bien que les gens s'en sortent. Il n'y aurait pas eu de problème. Le problème, c'est qu'on voit que les gens sont plongés dans les péchés, dans l'injustice, dans le débordement des limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala, et quand même qu'ils ne sont pas assidus aux assises des sciences. Aux conférences comme celle-ci. Il y a un problème. Et aujourd'hui, certains sont dit que c'est à cause du programme qui a changé de certaines personnes. J'ai failli éclater en sanglots. Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, quand j'entends cette parole, parfois j'ai envie que les gens comprennent comme moi. Wallahi, parfois j'ai envie que les gens comprennent comme moi. Parce que je sens que les gens ne sont pas sur la même longueur d'onde que moi. Ya akhi, Wallahi, alladhi la ilaha ghayru, même pour moi ce n'est pas facile. Depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas eu le temps de m'asseoir une seule fois sur ma chaise. Pourtant, je dois avancer. J'essaie de répondre aux invitations des frères, de faire ce que je peux, d'enseigner. Parce qu'en réalité, Wallahi, quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui a eu la chance d'ouvrir les yeux et de voir et de découvrir ce que c'est que l'islam authentique, Wallahi, ne peut pas nous observer et être insensible. C'est ça la réalité. Wallahi, ce n'est pas parce que j'ai le temps que je suis assis ici. C'est parce que je suis très très inquiet. C'est parce que je sais que nous avons encore beaucoup de problèmes, même si certaines personnes ne veulent pas l'admettre. J'ai évoqué un affaire ici. Certains titres du sujet disaient « La taqul an rajul innahu ala sunna hatta tajtami'a fihi jami'u khisal sunna » Ne dis pas d'une personne qu'il est sunni jusqu'à ce que les caractères, les traits et caractéristiques de la sunna sunnite en lui. Parce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala était un tout. Et il faut se soumettre à toutes ces choses-là. Donc, excusez-moi si je reviens sur ce point et si je reviens. C'est à cause de ce que je suis en train d'expliquer. Wallahi, on ne peut pas nous observer avec un regard de méditation et rester insensible. Peut-être que j'ai des manquements dans ma manière de transmettre, dans ma façon de vouloir réveiller les consciences. Mais il y a problème. Je veux que les gens comprennent au moins s'il y a problème. Et que nous devons sortir de cette situation. Pourquoi j'ai dit que je devais éclater en sanglots? Parce que parfois j'ai l'impression qu'on n'a pas, on n'a pas encore compris ce que c'est que la religion et ce que c'est que le mariage. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: الزواج نصف الدين فمن تزوج فليتق الله في نصف الباقي وكما قال صلى الله عليه وسلم le mariage est la moitié de la religion. Quiconque se marie, qu'il craigne Allah sur l'autre moitié. Mais quel est ce mariage qui est la moitié de la religion? Est-ce que c'est le mariage que nous avons fait? Est-ce que c'est celui que nous faisons? C'est le mariage prescrit par Allah. Celui qui a été enseigné par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce mariage qui représente la moitié de la religion. Voyez, si on a bien compris que le mariage c'est la religion, qu'est-ce que ça veut dire? Méditez bien sûr ce que c'est que le mariage. Quand on est marié, partout où on se trouve, on est marié. Regardez la différence. Le mariage, il faut qu'on tombe d'accord, c'est la religion, non? Ça c'est, nous avons fait une première conférence ici. C'était clair que le mariage c'est la religion. Nous avons expliqué ce pourquoi on devrait se marier. S'il est établi que le mariage c'est la religion, méditez sur une chose. Le mariage c'est une religion qui a une caractéristique particulière. Et c'est pour ça que le prophète dit que le mariage c'est la moitié de la foi, de la religion. Quand on prie, on commence par attaquer et on finit par as-salat et la prière finie. Alors que quand on est marié, partout où on se trouve, on est marié. Ça veut dire qu'en réalité, le mari qui ne dit pas le mariage, selon les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, partout où il se trouve en train de pécher. Et lorsqu'il vit le mariage comme il se doit, partout où il se trouve, puisqu'il est marié, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et par conséquent, il a les récompenses. Vous voyez pourquoi c'est la matière de la religion? Mais qui sont ceux qui ont compris comme ça? Qui cherchent à être édifiés? Qui veulent se mettre dans cette posture, dans une posture où, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qu'ils soient en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est le mari qui sort de sa maison. Parce qu'il veut nourrit sa famille du lycée et est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le mari qui pense à sa famille, partout où il se trouve, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le mari qui se conduit comme il se doit, respecte tous les enseignements liés au mariage, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala où il se trouve. De la même manière que celui qui ne le fait pas, il est en train de pécher. Si tel est donc le mariage, quand on organise une assise comme celle-là, et que des personnes qui sont censées être des mariées se privent de ce genre d'assise, qu'est-ce que cela indique? Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que les gens n'ont pas encore compris. J'ai assez de mariage, c'est pour toute ta vie. Tu as besoin de ces enseignements, tu as besoin d'être éduqué, de connaître toutes ces choses-là. Or, même pendant une assise, on ne peut pas se donner toutes ces choses. Mais il ne faut aucun doute que dans ce genre d'assise, tu peux également apprendre beaucoup de choses et s'améliorer. En plus, ce n'est que pour un temps. Quelques heures. À travers lesquelles tu apprendras comment est-ce que tu te dois de te conduire dans le mariage. Et malgré ça, nous n'avons pas de temps. Mais les gens évoquent le temps. Wallahi, ça, ça montre la différence qu'il y a entre nous et les pieux prédécesseurs. Et le grand fossé qui existe entre nous. Les compagnons avaient de la peine. Chaque fois qu'ils pensaient qu'une chose peut toucher leur religion, ils cherchaient à chaque fois à être édifiés. Regardez le hadith d'Abdullah ibn Busrin, radiallahu anhu. Ya Rasulallah, ibn Shara ila al-Islam kadekatur alayya. C'était des gens qui s'inquiétaient pour ça. Ils disaient, oh Allah, oh noble prophète, les législations islamiques semble nombreux pour moi. Yannick, il a eu peur de ne pas pouvoir préserver sa foi, sa religion en se conduisant comme il se doit par rapport à toutes les injonctions divines. Est-ce que quand il a fait ses conseils, il est resté tranquille? Déjà, qui sont ceux qui ressentent cela en eux, parmi nous? Qui me dit? Qui font l'examen de conscience et essayent de se remettre en question, est-ce qu'on a toujours été comme il se doit? Qui sont même ceux qui méditent par rapport à leur passé? Qui font le bilan? Si jusqu'ici, ils se sont toujours conduits comme il se doit? Qui se disent, et si je mourrais maintenant? Quelle est la direction que j'ai? Je vais prendre à la lumière de mes œuvres. Qui sont ceux qui se remettent en question de cette manière? C'est comme ça que les compagnons vivaient. Et c'est pour ça que lorsqu'il y avait problème, ils le ressentaient directement. Mais nous, nous vivons dans les problèmes. Et le pire, c'est que nous ne les ressentons même pas. Quand il a dit, il n'a cherché à l'islam, quand il a cherché à qu'il voulait la solution. Parce qu'il a compris que c'était un problème. Et que la religion ne doit pas dépasser l'homme, c'est une obligation d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas se laisser dépasser par la religion. On doit assumer. C'est comme ça que nous devons être. Donc, c'est un appel à la conscience, à la renouvellation de la foi, ou alors au renouvellement de la foi, au renouvellement de l'engagement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la préparation. Chacun se doit de se préparer ses jours. Parce que dans quelques jours, nous allons accueillir les jours des Zulhijja, les 10 premiers jours des Zulhijja, qui sont les jours les plus meilleurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une seule période parmi les jours qui a la valeur de ces jours. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous a donné des injonctions relatives à ces jours. قال الله تعالى والفجر وليال عشر الله أجري فالو لجيزو لجيزو ذي الحجة كم لسي بيان دي ستين سابان دي لزيجير في القرآن et vous êtes sans ignorer que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala juge par une chose, parmi les enseignements que cette attitude comporte, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce comportement, ou alors cette attitude, veut nous montrer la valeur de la chose par quoi il a juré. Quand Allah jure par une chose, c'est pour attirer notre attention sur cette chose. Et en même temps, nous montrer la valeur de cette chose, c'est que cette chose représente. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est grand. Ça veut dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure une chose, c'est pour nous montrer la place de cette chose et l'importance de cette chose. Et ces jours font partie des mois sacrés. Ce sont des jours parmi les jours des mois sacrés. قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض ذلك منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la prescription d'Allah depuis le premier jour de la création des cieux et de la terre et de tout le monde. Et parmi ces 12, il y en a 4 qui sont sacrés. Et pour nous montrer l'importance de ces mois sacrés et de l'attachement aux injonctions relatives à ces mois, Allah subhanahu wa ta'ala, avant de donner l'injonction, s'est arrêté et a dit: ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Quelle est la religion des droitures? Quelle est la leçon qu'on tire de cela? Ça veut dire que l'observation des prescriptions relatives à ces 4 mois sacrés fait partie de la droiture de la religiosité du croyant. Et que sa religiosité ne saurait être une religiosité droite s'il n'observe ses injonctions. ذلك الدين القيم. Telle est la religion droite. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ne soyez donc pas injuste envers votre propre personne pendant ces jours. Donc, c'est un jour parmi les mois sacrés. Et l'injonction divine relative à ces mois, c'est que l'on se doit d'éviter toute forme d'injustice. Parce que la plus petite injustice, c'est l'injustice envers soi-même. Et lorsque cette injustice envers soi-même est par ricochet une injustice envers une autre créature, le degré de l'injustice s'augmente. Et lorsque par ricochet c'est une injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, le degré d'injustice s'augmente. Et toutes ces formes d'injustice sont interdite. Parce que quand on se montre injuste envers Allah, en réalité, on est aussi injuste envers soi-même. Parce que l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi la conséquence? C'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est perdre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un qui s'expose, qui expose sa personne à la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité a été injuste envers sa personne. Donc c'est pour ça qu'en réalité ces versets interdisent toutes les formes d'injustice. Et parmi les formes d'injustice, c'est le fait d'avoir l'occasion de profiter sans profiter. L'occasion d'atteindre le grand degré d'élévation d'enfant, les atteindre. C'est pour ça que nous devons de nous préparer pour accueillir ces 10 jours et de reconnaître la valeur de ces 10 jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté dans le hadith sahih d'après Ibn Abbas radiallahu anhuma qu'il a dit: ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ashr. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله
إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء.
Dans ce hadith authentique rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit: Ma min ayyamin nakira fi siyaqi an-nafi tufidu al-umum. Ce figure de style en langue arabe indique la globalité. Donc, dans le hadith, le prophète dit qu'il n'existe pas de jour. Donc, l'œuvre salutaire est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que ces 10 jours. Les 10 jours de Dhul-Hijja. Subhanallah. Ma min ayyamin. العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر إن الجسد قد يجو إذا جيشو ذا قنطال يجي لطن إي لغر إن الجسد قد يجو ولغر صالتي كل كسوى لغر صالتي إتلي دمي وفرد الله سبحانه وتعالى ك كسيجو. Même les compagnons étaient surpris. Ils ont compris le hadith, mais il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils connaissent la force du jihad. Et le prophète a été clair, c'est-à-dire qu'il a mis tous les deux. À partir du moment où quelqu'un fait un acte, ou alors fait une bonne œuvre, pendant ce jour, cette bonne œuvre est meilleur que toute bonne œuvre accomplie en dehors de ces 10 jours. C'est pour ça que les compagnons ont dit, voilà le jihad qui s'habille là. Même la jihad sur le sentier d'Allah, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait des zikirs pendant les 10 derniers jours, pendant les 10 premiers jours des Dhul-Hijja, tu te dis qu'il est meilleur que celui qui a fait le jihad sur le sentier d'Allah en dehors de ces 10 derniers jours. Vous comprenez? Ce qui a fait poser cette question aux compagnons. Parce que s'il s'agissait seulement de la jihad, que celui qui a fait la jihad pendant les 10 jours est meilleur que celui qui a fait la jihad en dehors, les compagnons n'allaient pas avoir ce problème. Mais ils ont eu le problème parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a flaqa. Hein? Ce qu'on appelle l'islam, il a dit, ma min ayyamin. Al-amal salih. Il n'y a pas de jour où l'œuvre salutaire, la bonne œuvre, et meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les 10 jours de Dhul-Hijja. Donc, les compagnons ont compris que toutes les bonnes œuvres entrent dans le hadith. C'est pour ça qu'ils ont dit au prophète, même les jihad, donc ça veut dire que même celui qui fait une petite sadaqa, qui fait un petit adkar, non, pendant ces 10 jours, qui veut dire qu'il est meilleur, est-ce que c'est quoi, il veut se rassurer, est-ce que c'est ce qu'on a compris? Il est meilleur que celui qui a fait la jihad, c'est pour ça qu'ils ont dit, voilà jihad, dit Sabilillah, même la jihad sur le sentier d'Allah, le prophète a dit, voilà jihad, dit Sabilillah, même pas le jihad sur le sentier d'Allah. Illa rajulun, sauf une seule personne. Kharaja bi nafsihi, wa malihi, falam yarji bi dhalika bi shay. Seule une personne qui est sortie sur le sentier d'Allah avec ses biens. ونفسه فقط فرصد ولم يرجع من ذلك بشيء وكيني رجعني عبد رين دي تو سلا فتاجي كي ها في تو سلين دي خسي دي فانتير الله سبحانه وتعالى انسي كفا فقط فرصد إلا تو تاجي سو دي فانتير الله سبحانه وتعالى فلا لا تل فرصد كي دي فاس ان فرصد كي ها فت اين اوبر ساليكي كل كسوا لنشي دي فت اوبر pendant les 10 jours de Dhul-Hijja. Comment est-ce qu'on peut avoir cette occasion sans profiter, si ce n'est l'insouciance? Comment on peut sentir approcher ces 10 jours sans élaborer un programme particulier relatif à ces 10 jours?
c'est une occasion, un an, pour quiconque aspire à accéder à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se lancer dans les œuvres. Parce que si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre que cette période, c'est la période, ou alors que ces jours sont les meilleurs jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que pensez-vous si on associe aux meilleurs jours les meilleurs jours? قال رسول الله قال الله تعالى في حديث قدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب quiconque nuit déteste se montre haineux envers l'un de mes alliés فقد آذنته بالحرب alors je lui déclare la guerre. Regardez comment Allah a commencé ce hadith. C'est pour montrer la place de ses alliés. La place que ces derniers ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on atteint ces degrés, Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de nous et se charge de nos ennemis. Man aada li waliyan faqad aadanhu bil harb. Quiconque s'attaque à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Man, adat shar, man aada li waliyan. Nakira, fi siyak shar, fatufidu, al-umum. Quiconque s'englobe tout ce qui peut s'attaquer à un allié d'Allah, que ce soit les djinns ou les humains. Quiconque veut être à l'abri des nuisances, qu'il recherche l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il cherche à atteindre ce degré, qu'il cherche à être aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est comme si, après avoir dit cela, qu'est-ce que normalement le serviteur qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui acquit au degré élevé, après avoir écouté ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est l'attitude qu'il se doit d'avoir? C'est se poser la question de savoir comment atteindre ce degré. C'est pour ça que directement Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ وما تقرب إلي أدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Et mon serviteur ne peut se rapprocher auprès de moi via une œuvre que j'aime, comme ce que je lui ai écrit de manière obligatoire. Ça veut dire que les œuvres les plus données auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les œuvres obligatoires. Et que le serviteur ne cesse de se rapprocher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas les œuvres qui sont honnêtes auprès d'Allah, et que le serviteur ne peut se rapprocher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas une œuvre meilleure qu'une œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit de manière obligatoire. Nous avons donc les meilleurs jours et les meilleures œuvres. Falbab, Mastour. La barbe est donc ouverte et le champ du travail est large. Et c'est en quoi les compétiteurs devraient compétir. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَكَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَاتِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher auprès de moi à travers les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Ça veut dire que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve au bout des actes surrogatoires après l'accomplissement des actes obligatoires. Celui qui veut atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il commence par la perfection des actes obligatoires. Et ensuite, ajoute à cela les actes surrogatoires tout en les multipliant. C'est ainsi qu'on accédera à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut céder à la paresse quand il connaît et médite sur les récompenses, sur les conséquences que l'accès à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala a sur le serviteur. قال الله تعالى فإذا أحببته إذا أحببته أمون أمون سجلم كنت سمعه التي يسمع بها وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. الله دي Et s'il accède à mon amour, je deviens son nid à travers lequel il entend. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde l'accommodement dans son nid. Prend soin de son nid de telle sorte qu'il ne puisse entendre que ce qui lui permet d'accéder à l'agrément d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala le protège contre tout ce qui peut déclencher la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de sa vue de telle sorte qu'il ne puisse poser les yeux que sur ce qui lui permet d'accéder à l'agrément d'Allah, de telle sorte qu'il soit à l'abri de tout ce qui peut engendrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah prend soin de son toucher, de telle sorte qu'il ne puisse toucher que ce qui lui permet d'accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne pose la main que sur ce qui est béni. Quant à ce qui est maudit, Allah subhanahu wa ta'ala l'en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala prend soin de sa marche, de telle sorte qu'il ne fasse les pas que vers ce qui lui permet d'accéder à l'agrément d'Allah, d'accéder au degré élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et le protéger contre tout ce qui peut engendrer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on atteint ce degré, il n'existe plus de barrière entre le serviteur et le créateur. C'est pour ça que dans la suite, Allah dit « Wala in sa'alani » et s'il me demande quoi que ce soit, « Wala in sa'alani » S'il me demande quoi que ce soit, là où il y a une, je lui donne ce qu'il demande. Qui est celui qui ne veut pas atteindre ce degré? Et s'il recherche le refuge auprès de moi, là où il donne, je vais lui accorder mon refuge. Qui est celui qui ne veut pas atteindre à ce degré? Nous voulons tous. Mais est-ce que nous voulons autant, est-ce que nous voulons autant faire des tests de la révélation? Nous voulons toutes ces choses par aspiration. Mais nous ne faisons pas accompagner, nous ne faisons pas suivre cette aspiration par les œuvres et les efforts. قال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
Quiconque aspire à la dernière demeure, au paradis, tout en empruntant le chemin menant vers elle. Ceux-là sont ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala récompense les efforts. Alors, le frère, celui d'entre nous qui vivra jusqu'à ce jour dernier, qu'il se rappelle de ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a en face de lui les meilleurs jours de l'existence et qu'il se doit de se montrer reconnaissant envers Allah en profitant autant que possible de ces jours. Et qu'il multiplie les actes de bonté, les œuvres salutaires, tout en commençant par la multiplication des invocations et des adhkars, des rappels. Parce que dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيلِ وَالتَّكْبِيرِ » Alors, multipliez pendant ces 10 jours le rappel, rappelez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 10 derniers jours, il nous a fait comprendre que l'œuvre salutaire pendant ces 10 derniers jours est meilleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que n'importe quel autre jour en dehors de ces 10 derniers jours, y compris le mois béni de Ramadan. Y compris le mois béni de Ramadan. Si en haut le prophète sallam parle de toute œuvre salutaire et en bas il nous oriente vers le rappel, quel est le rapport? Pourquoi le prophète sallam nous demande de faire beaucoup de rappels? Parce que celui qui fait le rappel comme il se doit bénéficie d'une assistance divine qui lui permet de contenir tout. Tous les efforts que l'on puisse déployer sur la voie de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, c'est le hadith d'Abdullah ibn Busrin. Lorsqu'il est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ya Rasulallah, inna shara'i' al-islami kad kathura alayya. » Subhanallah, regardez la miséricorde du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la perfection dans la transmission, l'assiduité dans l'orientation et la commodité dans l'enseignement. Il nous dit que il n'y a pas de moment, de période où l'œuvre salutaire est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les djinns prenaient tous les dulfijas. Et en bas, il nous oriente vers l'azkar, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez dans le hadith d'Abdullah ibn Busrin pour comprendre cette perfection dans la transmission. Cette miséricorde que le prophète sallam a envers cette communauté. Quand Abdullah ibn Busrin est venu voir le prophète sallam, il lui a dit « Inna shara'i al-islam kad kathurat alayya » Les législations islamiques me semblent nombreuses. Yani, c'est comme s'il disait au prophète sallam, j'ai peur de ne pouvoir les accomplir tous. Alors le prophète lui a dit, quand il a dit cela, lui-même il a demandé au prophète, oriente-moi vers une chose qui va me permettre de m'en sortir. Regardez les compagnons. Quand il s'inquiétait, il recherchait le fils de Dieu qui sortit. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « La yazalu lisanuka raqban bi dhikrillah » Alors que ta langue ne cesse de mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ta langue ne se fèche par la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que celui qui se rappelle comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une insistance qui lui permet de continuer toute la législation islamique. Donc c'est comme si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir exposé clairement ce que représente ces jours et après nous avoir encouragé de multiplier les actes d'adoration, c'est comme si après cela il a dit cramponnez-vous au Askar, car les Askar vont vous permettre de profiter comme il se doit pendant ces jours, à travers la multiplication de bonnes œuvres. Il a dit, Akhiru fihinna bi tahlil. Ma huwa tahlil? C'est ça. C'est quoi tahlil? Non. نعم التحليل هو قول لا إله إلا الله، وهو أفضل الذكر كما جاء في حديث صحيح، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. C'est le meilleur appel. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيين من خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La meilleure parole que j'ai dit ainsi que les prophètes qui sont passés avant moi est La ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration à part Allah wahdahu. Il est unique. La sharika la, il n'a point d'associé. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et j'atteste que le prophète Muhammad est son serviteur et son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors parmi ces dix derniers jours, nous devons démultiplier le rappel, en commençant par At-Tahlil, qui est en réalité un renouvellement d'engagement qui lie le serviteur à son Seigneur. Quand on atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah, c'est une vérité absolue et c'est un engagement. Ça veut dire qu'on prend l'engagement de ne adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. De ne rechercher que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire passer l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. La ilaha illallah ya Abdallah. Ça veut dire que tu ne te dois de vivre que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te dois de vouer à l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu te vois de purifier tes actes. De tout ce qui peut empêcher ces actes d'adoration. De tout ce qui peut exposer cette adoration à ce qu'on appelle Sharika. Le partage. Partager l'adoration entre Allah subhanahu wa ta'ala et un autre. En le voyant à Allah et un autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on fait la ilaha illallah, on doit se rappeler de tous ces sens. لا إله إلا الله يا عبد الله تعني أنك لا تصلي إلا لله ولا تؤتي إلا لله ولا تمنع إلا لله ولا تمشي إلا لله ولا ترجي إلا لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فهدنك شنة الوادي تريك فو الله سبحانه وتعالى شنة الوادي دونك فو الله سبحانه وتعالى شنة الوادي ركزك فو الله سبحانه وتعالى فهدنك كونكسيه لا إله إلا الله كم إنسدوا يذكر الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل دي إن صلاتي مكيه ونسكي مزات لديرسيون ومحياي مدي ومماتي مموت لله رب العالمين تسلا فاسمع الله سبحانه وتعالى لا شريك له. Il n'a point d'associé en toutes ces choses. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. C'est pour ça que celui qui a compris la ilaha illallah comme il se doit, rien ne peut lui faire. Ou alors il ne peut le faire reculer. Face à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est prêt à se sacrifier pour accéder à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas prêt à sacrifier l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour quoi que ce soit. En disant la ilaha illallah, on se doit de penser à tous ces sens, à cet engagement, et de méditer si on a toujours été honnête dans le respect de cet engagement. C'est pour ça que ça doit également être une occasion de repentance pour tout ce que nous avons eu à faire par le passé, qui peuvent empêcher la ilaha illallah, qui peuvent faire de nous des menteurs. Parce que celui qui dit la ilaha illallah et adore un autre, il recherche à travers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala autre chose que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aime les éloges des hommes. Recherche la satisfaction des hommes au détriment de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas véridique dans son attestation. Donc il faut méditer quand on dit la ilaha illallah. Le rappel auquel le prophète Mohammed sallam nous invite pendant ces 10 derniers jours, ce n'est pas le rappel que les musulmans font aujourd'hui, ou alors la grande majorité des musulmans font aujourd'hui, le rappel dépourvu de concentration, d'orientation du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le rappel de celui-là qui peut mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala plus de 1000 fois en 30 minutes. Hazali Sabidikir. Ça, ce n'est pas le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yahi, les askar sont tous compris dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les rappels relèvent de la révélation. Il n'y a pas un seul rappel. Non, qui n'a ni été révélé par Allah ni par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien comprendre ce que je veux qu'on comprenne. Je veux qu'on comprenne le sens du rappel. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu à travers le rappel. Quel que soit le zikr à travers lequel on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne peut être qu'un rappel enseigné par Allah dans le Coran ou par le prophète sallam dans la sunna. Oui. Or, donc ça veut dire que les rappels font partie de la révélation. Nous sommes d'accord? Les rappels font partie de la révélation. Hey. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran? Bien ordine. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran? Hein? Le rappel. Allah a fait descendre le Coran comme le rappel. Mais maintenant, écoute la question. Pourquoi est-ce qu'Allah a fait descendre le Coran? Il a fait descendre le Coran comme le rappel, comme une guérison. Je ne veux pas que vous me dites ça. Ça, le Coran est un rappel. Le Coran est une guérison. Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit dans le Coran. Mais ce que je demande ici, c'est pourquoi est-ce qu'il a révélé le Coran? Non. Pourquoi ce soit pour nous comme une idée? Non. C'est pour nous comme une idée. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. C'est un livre béni que nous avons fait descendre sur toi. Pourquoi? Afin qu'il me dit ليدبر afin qu'il me dit. Dans la base, c'est que les akkar ont des vrais méditer sur les akkar. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Ce n'est pas qu'on parle Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est pas ça ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Est-ce qu'on a une voix plus belle que celle des anges pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait besoin de notre voix? Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est la méditation et la mise en pratique de ce qu'implique cette méditation. C'est pour ça que lorsqu'une personne dit la ilaha illallah, il se doit de méditer sur le sens de cette parole. Ya ilaha illallah, biha qamat as-samawat wal-ard, wa min ajliha khalaqa Allahu al-khalaiq, wa min ajliha khalaqa Allahu al-jannata wal-nar. Je sais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a établi le ciel et la terre. Il a créé les hommes. Je sais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer. Celui qui concrétise cette parole ira au paradis. Et celui qui ne la concrétisera pas ira en enfer. On ne peut pas évoquer cette parole sans méditer sur la quintessence de cette parole et sur ses indications. Ya ikhwa, combien de personnes ont les chapelets, marchent en mentionnant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que ce rappel a changé sur eux? Combien de fois est-ce que les musulmans se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala? Mais pourquoi est-ce que ce rappel n'agit pas sur nous? parce qu'il ne s'agit pas là du rappel légiféré par Allah, enseigné par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le rappel vers lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous invite pendant les 10 derniers jours, pendant les 10 derniers jours de Dhul-Hijja, et celui qui a été enseigné par dans le Coran et dans la Sunna, c'est ce rappel qui est basé sur la méditation et sur la mise en pratique des implications de cette méditation. هذا هو لا إله إلا الله باختصار أكون كفاك جيد لا إله إلا الله بعد ما فيكم قم سلتي لكنها إشارات واللبيب بالإشارة يفهم سنسون كجس des indications et le Dieu d'intelligence à partir des indications qu'on prend. قال فأكثروا فيهن بالتحليل والتحميد. والتحميد هو القول الحمد لله سجي الحمد لله لوانج الله. Mais le rappel auquel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait allusion ici, ce n'est pas une simple parole prononcée par la langue dépourvue de méditation, prononcée par une personne ayant le cœur plongé dans l'insouciance et l'indifférence. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce rappel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle. Il nous appelle au rappel de celui qui médite sur le sens de ces mots. الحمد لله رب العالمين. Cette parole qui fait réagir Allah subhanahu wa ta'ala lorsque le serviteur la prononce comme il se doit dans sa prière. قال الله تعالى فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. Allah dit lorsque le serviteur dit dans sa prière الحمد لله رب العالمين الذي mon serviteur m'a mangé. Mais quelle est cette parole qui fait réagir Allah? Est-ce une parole dépourvue de méditation d'une personne ayant le cœur plongé dans l'insouciance? Une personne inattentive? Abadan. C'est Alhamdulillah d'une personne qui a compris ce que cette parole et ce que cette parole implique. قال العلماء الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال بصفات الكمال مع التعظيم والمحبة والإجلال. الحمد لله سلوانه الله سبحانه وتعالى en pensant aux attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux attributs sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui dit Alhamdulillah, il se doit de penser à tous ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors au maximum d'attributs possibles qu'il peut. Il se doit de penser à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette miséricorde à travers laquelle il peut encore parler, malgré ses manquements à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette miséricorde à travers laquelle il survit encore, malgré les péchés. Cette miséricorde à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a épargné de toutes les misères qui existent autour de lui. C'est à travers cette miséricorde. Et tout cela atteste de la perfection de cette miséricorde. Une miséricorde qui couvre toutes les créatures, dont aucune créature n'est à l'abri. On se doit de rappeler, de se rappeler du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu huwa al-khaliq, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur. Et que cette création est une création parfaite. Et que nul eut cette perfection dans cette création, basée sur la science et la sagesse, on aurait pu être ces animaux. On aurait pu être ces fourmis. On aurait pu être ce qui est. On aurait pu être tout ce qui existe autour de nous, qui n'est pas humain. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette perfection dans la création, nous a créé et a fait de nous des hommes. On doit se rappeler de tout cela, de la perfection dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les attributs sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu Razzaq. On doit se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est le pourvoyeur des subsistants et que en cela il est parfait. Qu'on ne manque pas de ce dont on a besoin en réalité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son pourvoyement, ça se dit pourvoyement? Dans sa pourvoyance, dans son pouvoirment, est parfait. On doit se rappeler de tout cela. Annahushafi, que c'est lui qui guérit. Et qu'on est, on aurait pu mourir à la première maladie qui nous a frappé après notre naissance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a guéri. Et préserve cette santé jusqu'à nos jours. On doit se rappeler des attributs sublimes d'Allah et de la perfection qui existe dans ces attributs. Ça c'est Alhamdou, c'est ce qu'un truc Alhamdou. On doit penser à tout cela, on doit méditer. Parce que, regardez, c'est que cette méditation, de cette manière, implique automatiquement c'est quoi? C'est la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas méditer de cette manière sans glorifier Allah. C'est pour ça que les paroles disent ma'at-ta'zim. Avec glorification. C'est louanger Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses attributs sublimes. Avec glorification, tout en le glorifiant. Parce qu'on ne peut pas méditer de tout ça sans glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. La mahabba. On ne peut pas méditer sur les attributs sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Car, quel que soit ce que l'homme aime, cette chose en soi est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est une incohérence que d'aimer une chose, quelle que soit la nature de cette chose, sans aimer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cette chose aimée est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et accéder à cette chose est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment aimer cette chose sans aimer son créateur? Sans aimer celui qui nous a facilité d'accéder à cette chose? C'est une incohérence que d'aimer sa femme à cause de ce qu'elle nous procure sans aimer Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette femme, qui nous a orienté sur le chemin de cette femme et qui nous a facilité le mariage avec cette femme. Donc on ne peut pas ne pas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils méditent sur les attributs sublimes d'Allah, aiment Allah subhanahu wa ta'ala au-delà de tout. Parce que tout ce qu'on peut aimer, en réalité, ne devrait être comme une branche parmi les branches de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète Mohammed dit, inna awsaka'u al-iman, al-hubbu fillah, al-bughdu fillah. La branche la plus solide de la foi, c'est le fait de vivre pour Allah. Et de détester pour Allah. Ma'al mahabba wa ta'zim wa l'islam avec vénération. On ne peut pas ne pas vénérer Allah subhanahu wa ta'ala. Si on a donc compris ceci, et ce que c'est que al-tahmid, le fait de dire alhamdulillah. Comment expliquez-vous que certaines personnes, alors qu'ils sont même en train de pécher, disent « Alhamdulillah ». Parfois, dans le commérage, les gens parlent et disent Alhamdulillah. هؤلاء ما فهموا معنى الحمد لله وإلا كيف تعطي الله وتحمده وأنت تعطي الله sinon une personne qui a compris ce que c'est que Alhamdulillah, comment est-ce que tu peux évoquer Allah subhanahu wa ta'ala quand tu pèches et continues à pécher? C'est parce qu'on n'a pas compris ce que c'est que le rappel. Le musulman est celui qui s'arrête quand le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné. C'est celui dont la folie se termine à la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui dont l'injustice termine à la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le rappel qu'Allah a légiféré, que le prophète a enseigné. Et c'est ça le rappel qui fait changer le cœur et purifie l'âme. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سرت القيام سنسيكي على من شاء الله لك فريني والله certain person alors qu'ils sont en train de commettre l'injustice d'autres passer les limites d'Allah dit سبحان الله et continue هنا الإيمان ما فائدة هذا الذكر وأنت تستمر في الاعتداء وأنت تواصل في الذنب ويدون لسيد سيرافل لسيد سيرافل كان شما أنسان الله سبحانه وتعالى سانك سانسان الفنيس سانك الله ما أنسان الله سبحانه وتعالى نتوى انفروش auquel se termine sa course dans les péchés, dans l'injustice, dans le débordement des limites imposées par Allah. Les croyants ne sont ceux qui, à la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémissent. Wa subhanallah, parmi les choses que nous devons faire, wallahi c'est de lire siyar salafina salih. بدءا بالصحابة ومن بعدهم والتدبر في القصص التي سردها النبي صلى الله عليه وسلم parmi les choses qui peuvent nous aider à comprendre et à assimiler ces temps, c'est la méditation sur l'histoire des trois prédécesseurs. Méditer sur l'histoire des trois personnes qui sont entrées dans la grotte et qui dans la grotte se sont dit nous ne pourrons sortir de cette grotte que vient les invocations. Invocations à travers lesquelles nous nous devons de demander, nous nous devons de rechercher ou alors à Tawassul, nous devons à travers nos actes pieux d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier dit, j'avais la vie de mon oncle, qui était une fitna pour moi, qui était belle, qui me plaisait tellement que je l'ai invité à commettre le péché. Sauf qu'elle m'en a empêché. Et un jour, elle s'est retrouvée dans un besoin extrême. Et lorsqu'elle s'est rapprochée de moi, j'ai profité de son besoin et j'ai voulu la soumettre à ma passion. Et elle l'a accepté. Dans le hadith, le prophète sallam dit, lorsqu'ils se sont retrouvés, l'homme entre les jambes de la fille, nu, méditez bien sur cette position, parce que, en réalité, quand on arrive à ce stade, c'est le point de non-retour. On ne peut plus revenir. Quand l'homme a la femme qui s'est donnée à lui, quand il se retrouve entre ses jambes, la femme lui a dit, « Ittaqillah, wa la tafuddul khatam illa bi haqqih. » ذكر الله ذكرت الله فوجل قلبه فترك المعصية. هكذا المؤمنون لفهم أمان شنين لنون الله أن يجزن كن الله إنه فستوت كذلك أبوه سيدي لأبوه لجفره. Et dans cette position, sa course au péché s'est achevée à la mention du nom d'Allah. Inna man minum, alladina ila dhikrallah wa zilat qulubuhum. Voilà les vrais croyants. Le vrai croyant n'est pas celui qui, quelque temps, n'est pas celui-là qui n'est jamais épris par l'insouciance, qui n'est jamais tombé dans le péché. Mais c'est celui dont la course dans le péché s'arrête à la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que si on avait compris tous ces sens, on va voir que la vie du croyant est faite de telle sorte qu'il ne tombe pas dans le péché. Et même s'il tombe dans le péché, qu'il se répand le plus tôt possible. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. C'est celui-là qui, lorsque les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont récités sur eux, leur foi augmente. Mais quelle est la foi qui va s'augmenter? C'est la foi de celui qui s'arrête et qui sent son cœur bouger lorsque le nom d'Allah est mentionné. Et c'est ce rappel que nous devons le faire. Alors lorsque tu dis Alhamdulillah, pense à tout cela. Pense à ce que c'est que Alhamd, c'est louange, et ce que cela implique. Et pense à Allah, celui à qui tu attribues cette louange, celui dont tu mentionnes le nom. Et pense à ce péché et l'esprit, c'est que à la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَلَيْكُمْ بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ والتكبير او كما قال صلى الله عليه وسلم والتكبير لا glorification الله سبحانه وتعالى à travers l'expression الله اكبر. يا اخي combien de personnes disent الله اكبر alors qu'en réalité ils sont en train de poursuivre quelque chose qui leur expose à la menace d'Allah سبحانه وتعالى qui s'interpose entre eux et la demande d'Allah. Alors que cependant, il dit Allahu Akbar. Hada kadhab fi zikrihi. Yakulu Allahu Akbar wa kad akbar wa kad kabbara shi'an akhar. Il dit Allahu Akbar alors qu'au fond de lui, il a glorifié une chose au-delà de sa glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il est prêt à se sacrifier, à sacrifier sa vie pour une chose autre que l'agrément d'Allah, pour une chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de musulmans disent Allahu Akbar alors qu'ils préfèrent finir tout ce qui a un rapport avec ce bas monde avant de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar يعني أنك تقدم أمر الله فوق كل شيء. Allahu Akbar implique que tu fasses passer la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala avant toute chose. Que ta recherche de la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de toutes les recherches. Que ton déploiement sur la voie de la recherche de la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala soit aussi grand que tout déploiement d'efforts. هذا هو الله أكبر صفة الله أكبر كان تقول الله أكبر تتعلم جدا وصغى أسكتة الله ونتخذر على طور بس كون جيكم إن سدوا دي كونتيني تولى ذات تدراسيا إذا نجي ذكبوا الله سبحانه وتعالى أن يتعلم le degré de la bienséance, de la bienséance, de la bienfaisance, qu'à travers la mise en pratique de ces enseignements. C'est à travers la multiplication du rappel d'Allah. Mais quel rappel? Celui que nous avons exposé ici. Qui est celui qu'Allah a légiféré? Qui est celui que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné? C'est à travers cela qu'on atteint le désir de la bienfaisance. « Ruhu an ta'bud Allah, ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yara'ak. » Ce que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et même si tu ne le vois pas, il te voit. « Wa hadha yakfi ya akhi. »« Hadha yakfi ka ya abdallah anna Allah yara'ak. » ليس الشأن أن ترى الله ولكن الشأن أن يراك الله. Le plus important c'est pas que tu vois Allah, parce que tu ne pourras pas le voir ici sur terre. Tu ne le verras que dans l'au-delà. Et tu ne le verras dans l'au-delà que si tu t'étais conduit comme celui qui sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde son soutien pendant et en dehors de ces 10 derniers jours. Qu'Allah nous assiste dans son rappel, dans la reconnaissance envers lui par rapport à tous ses bienfaits. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous permet de l'adorer comme il se doit. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hada wallahu ala wa alam. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.